France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Psychologie.
Musique et moi. Cynthia Fleury. Elsa Boublil. Un peu de temps à l'état pur. Marcel Proust.
C'est sur cet arrangement de la troisième gymnopédie d'Éric Satie, arrangé par Claude Debussy, que nous vous accueillons, Cynthia Fleury, avec cette sensation d'un peu de temps à l'état pur, pour citer Marcel Proust, non ? Bonjour, Cynthia Fleury.
Bonjour. Oui, en tout cas, il y a une Chez Satie, il y a quelque chose d'une évidence, d'une simplicité. Alors, c'est un choix très, très classique de ma part. Hein. Mais voilà, moi, j'ai commencé aussi par ces mélodies-là, ces facilités. Il y a quelque chose de l'âme. Il y a une espèce de sérénité aussi. Donc oui, il y a une stance. Tout d'un coup, voilà, on s'installe. Et oui, ça pourrait tout à fait fonctionner avec un peu de temps à l'état pur, qui est de loin presque un mantra pour moi, parce que c'est une vérité proustienne et qui signifie, si vous voulez, que c'est à la recherche du temps, mais c'est que nos vies, en fait, déroulent comme ça, quantité de passages secrets qui nous permettent de faire lien avec ce qui nous a précédé, ce qui est devant nous, et donc tout d'un coup qui nous donne un peu le sentiment de ne pas mourir, tout simplement.
Et la nécessité d'avoir du temps, la musique doit aider à cela, non ?
Tout à fait, c'est la musique tout d'un coup souvent nous fait sentir le temps.
Vous êtes psychanalyste, philosophe, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire Humanité et Santé, vous êtes auteur de nombreux ouvrages et vous avez récemment publié Le soin est un humanisme chez Gallimard dans la collection Tract. Alors j'imagine aussi que avoir du temps contribue aux soins, à la nécessité de faire soin à soi-même.
Ah, c'est la base,
ouais.
Je dirais c'est la base et c'est ce qui est bien évidemment manquant. Dans notre monde, le temps est plus manquant encore que l'espace. Et de fait, lorsque vous interrogez de façon comme ça, très basique, les soignants et les patients, ils manquent de temps. Les patients arrivent dans un état où ils n'ont pas le temps, de toute façon, même s'ils en veulent déjà au médecin de ne pas avoir lui-même du temps. Mais en face, le médecin n'a pas non plus le temps à consacrer au colloque singulier, à toute cette médecine narrative qui fait que, en gros, vous accompagnez quelqu'un, vous permettez chez quelqu'un ce consentement aux soins. C'est la question du transfert. Bon, tout ça fait que, oui, c'est un grand absent de notre monde d'aujourd'hui.
Nous, en tout cas, on a un peu de temps aujourd'hui, 1h30 devant nous. Vous êtes l'invité de Musique et Moi ce matin, Cynthia Fleury, donc psychanalyste et philosophe. Un peu de temps jusqu'à 12h30 sur France Musique, l'invité de Musique et Moi. À tout de suite. Thank you. Angela Brauer interprète cet air du Chérubin des Noces de Figaro de Mozart, Voig et Sapete, avec l'Orchestre de Chambre d'Europe, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Cet air de Chérubin, je crois, Cynthia Fleury, vous renvoie à votre enfance. Vous l'avez chantonné d'ailleurs.
Oui, je ne vais pas le faire maintenant.
Avec les bonnes paroles.
Oui, oui, Voig et Sapete. C'est d'abord parce que je faisais de l'italien quand j'étais plus jeune. Et oui, alors le petit air du Cherubino, c'est tout à fait... Bon, c'est vraiment, alors là, pour le coup, mon enfance. Là aussi, c'est très basique. Hein. Bon, les Noces de Figaro, je ne vais pas être d'une immense originalité. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai pénétré dans la musique et d'ailleurs dans les textes de littérature. C'est ce qu'on fait souvent quand on est enfant. On commence par les grands. Après, on fait les conneries. On fait le côté, on cherche soi-même, etc. Mais très souvent, on commence par les grands. Et donc, ça a un côté un peu répertoire, un peu... Oh là là, on connaît. On... Mais c'est comme ça. J'ai voulu jouer le jeu de cette petite itinérance. Et sincèrement, cette terre, c'est pas qu'il m'enthousiasmait, mais c'était un bonheur absolu d'eau, de fluidité, de légèreté amoureuse, en même temps de jeu, parce que c'est déjà voilà toute la filouterie qui peut se jouer aussi dans les Noces de Figaro. Et c'est vrai que j'étais très sensible à cette air.
Le masque, la farce, vous
exactement.
Étiez, vous aviez conscience, parce qu'enfant, c'était quel âge, Cynthia Fleury?
C'est 7 ans.
7 ans, et voilà. Vous aviez conscience de ce double jeu?
Oui, j'avais conscience, absolument, d'abord parce que j'aimais beaucoup, alors pas tout de suite, mais allez, 9 ans, 9-10 ans, un peu sur Marivaux, et ça me, en fait, j'avais un sentiment d'écho avec l'écriture de Marivaux, qui est pareil, qui est sur ses faux semblants, ses manières, comme ça, et puis ce qui était merveilleux chez Voig et Sapete, l'air du chérubin, c'est ce jeu entre le genre, les femmes, les filles, le garçon, l'homme, etc. Et je me disais, mais j'ai pas du tout envie d'aller dans ce monde-là. Ça m'a l'air absolument foireux. Comme
le monde des adultes.
Oui, enfin, le monde de ces faux-semblants autour du genre, de ce que tu espères de moi en tant que femme, de ce que j'espère de toi. Et en fait, je voyais le seul espace de liberté possible avec ce petit chérubin qui était peut-être le jouet de tout le monde, mais qui chantait comme ça.
Et qui savait se jouer des gens.
Et qui savait se jouer des gens, et voilà.
Et vous, quel enfant étiez-vous, Cynthia Fleury, du coup, avec cette conscience déjà de ce monde d'adultes, effectivement, de faux-semblants?
Ah, j'étais une enfant très consciente, ça c'est certain. Après, j'étais une enfant, je crois, très heureuse. En tout cas, jusqu'à l'âge de 9-10 ans, c'était assez... Le monde qui était le mien était assez stable. Ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué. Et j'avais cette formule, entre guillemets, adolescente, qui ne ravissait pas du tout mes parents, mais qui quand même disait la vérité. Je disais, écoutez, de toute façon, c'est pas grave, le bien a été fait. Voilà, sous-entendu, dorénavant...
C'est le chaos maintenant, mais...
Maintenant, c'est le chaos, mais est-ce que je pensais vraiment? C'est-à-dire que, de fait, c'était absolument... bon, enfin, en tout cas, ça n'allait pas. Mais le bien avait été fait, et ça, ça change tout.
J'ai envie d'aller me...
Un extrait de L'Enfant et les Sortilèges de Ravel par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mico Franck. Et là encore, Cynthia Fleury, vous connaissez le livret par cœur. Vous le chantez, vous criez. Vous étiez ce genre d'enfant, un enfant qui veut pas faire ses devoirs, qui tire la langue à sa maman, qui le punit.
J'étais l'inverse.
Oui, c'est ça.
J'étais absolument l'inverse.
J'étais un enfant sage.
J'étais terriblement sage. Je faisais mes devoirs. J'ai toujours fait mes devoirs. Donc non, c'était extraordinaire de pouvoir voir qu'on pouvait être enfant autrement. Donc c'était une expérience comme ça assez jubilatoire de voir cet enfant, ce que je comprenais très bien. Hein. Ma mère souvent me disait qu'elle était cet enfant, elle avait été cet enfant, ou en tout cas qu'elle ressentait cet enfant. Moi c'était très 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 loin de moi, et en plus on a coupé, il y a un passage derrière avec la mère qui vient et dit « songez », etc. En gros qui lui fait une leçon et qui prend cet enfant en otage, en culpabilisation, en disant « vous faites de la peine à maman ». Et donc là aussi, bon, mais j'aimais beaucoup cet opéra. En l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'aimais beaucoup l'opéra enfant. Voilà. C'est quelque chose que je n'aime plus l'opéra comme je l'ai aimé, comme j'étais enfant.
Ça veut dire que chez vous, il y avait des disques à disposition, vous serviez dans la discothèque, ce sont vos parents qui vous ont guidé.
Alors, sur l'opéra, pas du tout. Sur l'opéra, c'était véritablement un choix personnel. J'ai aimé l'opéra très jeune. J'ai eu un moment comme ça, assez investi, comme les enfants, vous savez, peuvent s'investir d'un sujet sur 4, 5 ans, 6 ans, et assez jeune comme ça, de 7 à 12 ans, voilà, de 7 peut-être à 13. Et là, j'ai vraiment dévoré. En plus, c'était le moment où on changeait. C'est-à-dire, on switchait du tourne-disque à l'arrivée des premiers CD, etc. Donc, en plus, j'avais fait l'acquisition, on avait dû m'offrir un CD, donc c'était fantastique. Il y avait cette pièce comme ça, ma chambre, qui était emplie de ce son, et j'avais un très 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 grand plaisir à écouter de l'opéra, de la musique classique ensuite, mais d'abord de l'opéra. Et donc j'ai vraiment dégusté tous les opéras. En fait, je suis rentrée dans le silence plus tardivement, quand je suis rentrée en écriture. Et en fait, l'écriture, je ne sais pas si c'est quelque chose que partagent les auteurs, mais moi l'écriture m'a, c'est terrible de dire ça, mais m'a tout volé. Elle a aspiré le tout. C'est-à-dire que je faisais du piano, j'étais pianiste, j'ai fait 11 ans de piano. Le jour où j'ai commencé à écrire, je n'ai plus eu la force, l'énergie de produire un son, ce qui a été une grande tristesse pour ma mère, en l'occurrence plutôt, puisqu'elle était attristée que, voilà, tout d'un coup, mon destin se sépare de celui du piano, même simplement comme ça.
Mais pourquoi, par nécessité de trouver la musique intérieure, qu'est-ce qui fait que la rupture fut aussi brutale?
C'est devenu quasi insupportable. Donc c'est terrible de dire ça, ça a fait un peu malade mental. Mais voilà, on connaît. Alors, je ne veux pas dire que j'étais atteinte d'amusie, c'est-à-dire voilà, on ne va pas aller jusque-là sur ce trouble pathologique, sur le fait de plus comprendre. Non, je comprenais très très bien, mais c'était trop. Si vous voulez, c'était trop, ça m'envahissait, ça avait un effet de saturation, et donc j'y suis plus arrivée.
Surtout quand vous écoutiez cela, j'imagine.
Thank you.
Charles Munch dirige l'Orchestre symphonique de Boston dans cet adagio pour cordes, opus 11 de Samuel Barber, qui est l'œuvre la plus populaire de la musique sérieuse américaine, Cynthia Fleury, qui est encore, je pense, sur l'enfance. Mais on parlait de cette musique classique que vous avez écoutée après l'opéra. J'imagine que ça vient un peu plus tard.
Oui, ça vient un peu plus tard. Mais après, il y a aussi la question du cinéma. Donc celui-là, il a été plus que popularisé par une scène grandiose de Mort à Venise, de Visconti. Et voilà, c'est toujours délicat parce que c'est quand même un grand morceau, immense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est comme la Joconde, comme des toiles de Dürer ou de Raphaël. Bon, on les a tellement vus, tellement entendus, on ne sait même plus faire la différence si c'est de la vraie musique ou si c'est simplement une musique d'intérieur. Enfin, il y a quelque
d'ascenseur
chose
même.
D'ascenseur, donc il y a quelque chose d'assez violent dans cette manière de dévaloriser ce qui quand même est un geste grand au niveau artistique.
Mort à Venise de Visconti, évidemment, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que vous avez été tôt cinéphile ? Est-ce que vous êtes plongé dans le cinéma relativement jeune ?
Alors ça, ça a été la première chose avant même la lecture, puisque j'ai été une lectrice entre guillemets tardive, en tout cas selon les codes de ma famille et puis du milieu. Voilà, j'ai commencé vraiment à lire, j'avais 10 ans. Avant, je lisais essentiellement
des livrets d'opéra.
Des livrets d'opéra, alors ça oui, de fait, des livrets d'opéra, mais beaucoup de bandes dessinées, voilà. Mais la lecture est arrivée tardivement. En revanche, c'est vrai que je l'ai souvent dit, mais à partir du moment où j'ai commencé à lire, j'ai beaucoup...
Vous n'avez plus arrêté.
Voilà, j'ai beaucoup lu et j'ai lu rapidement. Mais le cinéma, en revanche, j'ai commencé très tôt et avec les plus grands auteurs.
Par curiosité, par entourage,
par curiosité, par entourage, parce que nous avions à l'époque, un magnétoscope qui s'appelait un Beta Max, pour ceux qui s'en rappellent. Ensuite, après, avec des VHS. Mais en l'occurrence, moi, j'ai fait toute ma cinéphilie avec les Beta Max, espèce de petite cassette comme ça, qui avait qui était merveilleuse. Et je suis passée au crible tout le cinéma américain, le cinéma français, le cinéma japonais. Enfin, j'ai une très très grande culture cinématographique.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Le cinéma d'abord, l'opéra après, la lecture enfin. Cynthia Fleury, vous êtes aujourd'hui philosophe et psychanalyste. Est-ce que vous avez eu tôt ou très tôt eu envie d'être dans le soin ? On dirait, à vous écouter, qu'il y a quand même quelque chose qui est là assez précocement.
Alors, ce qui était là précocement, c'était un lien avec le langage. Moi, j'ai eu le sentiment tôt que... il y avait une impuissance structurelle chez moi, ou en tout cas qu'il ne serait pas simple d'entrer dans le monde, ou d'entrer au monde, ou de peser sur le monde, ou de transformer quelque chose. Et j'ai eu le sentiment assez vite que le langage peut-être serait un moyen de. Et donc la question de l'écriture est arrivée très vite. La question du soin, non, elle n'est pas arrivée très vite, elle est arrivée au contraire très tardivement, parce que, un, je n'avais aucune envie d'enseigner, ça aussi je l'ai souvent dit, mais c'est hélas très vrai, et je pense que l'enseignement est du côté du soin, du don, voilà. Et puis par ailleurs, la psychanalyse, quand j'ai commencé à faire ma thèse de philosophie, j'étais en psychanalyse, avec un homme qui s'appelle Pierre Fédida et qui m'a invité très très tôt à faire, à côté de ma thèse, parce que j'étais sur le chemin de la thèse, une thèse avec lui en psychopathologie, et j'ai refusé parce que pour moi ça ne faisait aucun sens. Je n'avais absolument pas l'idée de devenir moi-même analyste, et pour moi l'analyse c'était un chemin très personnel, intimiste. Et donc, il ne s'agissait pas plus tard de venir accompagner les autres dans leur propre chemin analytique.
Quel chemin ? Le premier mouvement de la cinquième symphonie de Mahler, Trauermarsch, une marche funèbre, In gemessenem Schritt, pour évoquer avec vous, Cynthia Fleury, la rencontre tardive entre Mahler et Freud à Leiden aux Pays-Bas, puisque Mahler, qui souffrait, qui était vraiment en souffrance, voulait essayer de comprendre avec Freud de quel mal il était atteint. Ça a été long avant qu'il ne puisse se rencontrer. Mahler a disparu quelques mois plus tard. D'ailleurs, malheureusement, après cette marche, on ne sait pas très bien ce qu'ils se sont dit, mais ils ont marché pendant des heures et il semblerait que Mahler l'ait vécu quand même comme un soin que Freud lui aurait apporté. Et voilà, c'était pour poursuivre cette conversation avec vous, parce qu'en plus, elle a quelque chose, cette marche funèbre, de très solennel. Elle va devenir très joyeuse après, donc il y a aussi peut-être ce que le soin peut apporter aux patients.
Il y a ce que le soin peut apporter, il y a aussi ce que souvent connaissent les grands dépressifs, c'est-à-dire des grands moments d'effondrement, et puis parfois des remontées, et qui sont douloureuses aussi, parce qu'ils savent qu'il y aura ensuite
une
chute. Alors, c'est tout le mouvement maniaco-dépressif, mais c'est vrai que c'est assez invivable. Alors, quand on a la chance, je ne sais pas, la chance ou la damnation, ou je ne sais pas, le talent, de traduire ça par la sublimation possible d'une musique, d'un art, etc., au minimum, peut-être qu'on se sauve un petit peu déjà, pas toujours, mais c'est vrai que on offre ça à la désespérance humaine, parce que chacun peut l'entendre quand même, chez Mahler. Donc, mais avec aussi une possibilité, oui, c'est vrai, d'en faire quelque chose. Bon, après le soin, c'est vrai aussi que ça peut être simplement, oui, parfois quelques minutes. Ça, c'est quand on est très 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 doué en tant qu'analyste. Mais c'est vrai qu'il y a des patients qui vous disent que ça s'est joué parfois sur un mot. Sur un silence de vous, sur un souffle, où tout d'un coup, voilà, ce qu'il savait bien évidemment depuis toujours autrement, etc. Mais là, tout d'un coup, là, c'est là, quoi. Et là, il y a émergence. Et donc, dès qu'il y a émergence, il y a commencement. Et c'est ça l'histoire quand même de l'analyse et du soin, c'est de redonner au sujet une possibilité de commencer, de faire histoire.
Là, nous qui écoutons de la musique depuis le début de cette émission, Cynthia Fleury, est-ce que vous pensez, à l'aune de ce qu'on vient d'écouter, par exemple, que la musique pourrait être une forme de soin, pourrait initier un soin?
Alors, oui. Alors, les deux, mon capitaine, dans la mesure où j'ai un camarade qui s'appelle Carole Beffa, qui est, qu'on connaît bien, grand compositeur, écrivain. Et j'ai demandé dernièrement à Carole, il me pardonnera cette petite confidence, je lui ai dit, mais voilà, nous, à la chaire de philosophie à l'hôpital, celle que je dirige à la fois, chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, et puis celle qui est la même au GHU Psychiatrie et Neurosciences, donc à Sainte-Anne, je lui ai dit, voilà, moi, je sais bien que la musique a un rôle thérapeutique, ou en tout cas la question de la musique raconte quelque chose du soin, mais je ne peux pas moi-même le raconter. Est-ce que toi, ça t'intéresserait d'aller un petit peu sur ce territoire-là? Alors, je réserve la réponse qu'il m'a faite, mais j'ai bon espoir que voilà, nous allions sur ce territoire-là. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup avec aussi des Asperger ou des autistes, ou en tout cas qui ont un trouble autistique, ou en tout cas ce qu'on appelle la neurodiversité, et qui renvoie très souvent à des hypersensibilités, à des difficultés, des saturations émotionnelles très rapides. Et la musique, là, c'est pas simple non plus, ça peut même être très violent. Moi, ce que je ressens parfois à mon tout petit niveau, les patients le ressentent à 1000%, et tout d'un coup, ça devient impossible. La seule chose qui va les apaiser, c'est du silence. Donc ça, il faut aussi l'entendre. Alors, le silence est aussi une autre musique, d'une certaine manière. Mais voilà, donc c'est pas le lien. Il y a une évidence par rapport aux soins pour certains, de relaxation, de manière d'entrer en soi, de rentrer dans un phénomène qualitatif comme ça, de rapport à autrui, mais pas toujours.
La composition de Duke Ellington, In a Sentimental Mood, interprétée au sommet par John Coltrane et Duke Ellington avec Aaron Bell et Elvin Jones. Pour poursuivre cette conversation avec vous, Cynthia Fleury, cette question de la musique et du soin, et le jazz dans votre vie, et puis peut-être après par rapport aux soins, mais dans votre vie à vous, ça compte, Cynthia Fleury.
Alors le jazz, ça compte, oui, ça c'est vrai, et encore aujourd'hui, ça se maintient. Alors d'abord parce que c'est une musique qui est en partage avec d'autres membres de ma famille, donc ça c'est sans doute quelque chose aussi qui fait que tout d'un coup nous sommes ensemble dans cette musique. Alors là c'était du sax, je pense, mais en l'occurrence mon instrument de musique préféré c'est la trompette. Donc la trompette, de fait, a priori votre territoire est immédiatement connu, c'est celui du jazz. Je dirais que ça nous permet ce terme-là d'une furtivité possible, c'est-à-dire que le jazz, moi je le sens pas comme saturant.
Émotionnellement.
Émotionnellement, il y a des trous partout. J'entends beaucoup beaucoup plus de silence dans le jazz que je ne l'entends dans la musique classique. Donc si vous voulez, il y a comme des échappées possibles partout.
Il y a la disharmonie qui est présente aussi.
Il y a la disharmonie. Alors, la disharmonie, j'y suis très sensible. Autre chose à laquelle je suis sensible en musique classique, c'est la dissonance. Mmh. Je suis très sensible à la dissonance. Ça me fait un bien fou. Hein. Donc, alors, parce que, et je sais pas, voilà, enfin si, je sais un peu pourquoi, mais en l'occurrence, je pense qu'il se joue quelque chose d'une possibilité autre, c'est-à-dire d'un espace quand même irréductible, où il y a quelque chose qui s'arrête et la musique n'envahit pas tout. Bon, mais voilà, après c'est très personnel tout ça.
Cynthia Fleury, c'est intéressant parce que tout à l'heure on évoquait le fait qu'au départ vous ne souhaitiez pas être dans le soin, vous vous destiniez à être philosophe. Aujourd'hui vous êtes philosophe et psychanalyste. On parle de musique classique et il y a des incursions de jazz, on va tirer des gros traits. Mais est-ce qu'on pourrait dire que la psychanalyse et la philosophie c'est un peu comme le rapport entre le jazz et la musique classique? C'est-à-dire que ils sont cousins, ils sont proches et pourtant c'est des approches complètement différentes du rapport au monde.
Oui, ça c'est très juste. Je dis souvent que, par exemple, si la philosophie s'intéresse au processus de véridiction, en tout cas à la question de la vérité par exemple, un psychanalyste va s'intéresser à la question, enfin je pense, de la vérité capacitaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, certes, produire un discours de vérité, mais en même temps avec cette obligation du médecin, de l'âme, ou de, vous l'appelez comme vous voulez, de celui qui prend soin, de produire une vérité qui vous met dans une position capacitaire. Et non pas qui vous détruit ou que vous ne pouvez pas entendre. Ça ne veut pas dire mentir, ça ne veut pas dire changer le dire, etc. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, je me soucie de la manière dont est dite cette vérité. Donc ça, c'est vrai que c'est une des différences possibles entre l'analyse et puis, bien évidemment, la philosophie.
Et le jazz et la musique classique, ça serait effectivement dans cette parenté qui nous permet de prendre la musique, justement, parler d'harmonie, de rythme, peut-être dans une forme de disharmonie.
Bah, disons qu'il y a quelque chose sans doute, alors c'est très très grossier ce que je vais dire, hein, mais dans le jazz, c'est vrai qu'il y a une présence de la singularité au sens où on sent que l'individu, le sujet, et là, la musique classique, c'est quelque chose d'un grand ordonnancement du monde, et il y a quelque chose de cosmique comme ça qui est quand même supérieur à nous.
Thank you.
La fugue numéro 8 en ré dièse mineur, BWV 877, interprétée par Su Xiaomei, extrait du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Alors, Cynthia Fleury, on parlait du jazz et du cosmos à l'instant. Là, avec Bach, on peut, j'imagine, poursuivre en ce sens.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on utilise souvent Bach, et notamment les fugues, pour expliquer ce qu'est Leibniz. Donc en philosophie,
le philosophe.
Voilà, le philosophe
qui est né à Leipzig.
Voilà, et donc parce que, alors, grand théoricien de la liberté nécessaire ou de la nécessité libre, de la monadologie et de cet ordonnancement des possibles faisant le meilleur des mondes, qui a été souvent moqué par Voltaire, mais en fait qui est dans une mathématique absolue, et c'est ça en fait la fugue, hein, c'est la possibilité comme ça d'explorer toutes les harmonies possibles.
Harmonies, oui, le clavier bien tempéré, c'est
voilà.
Ça.
Et donc, généralement, c'est vrai que c'est l'auteur qu'on... Il y a eu des livres, bien évidemment, sur cette alliance conceptuelle entre Leibniz et Bach. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, je me souviens, dans la lecture de Leibniz, que c'était tout à fait précieux, comme, encore une fois, manière de saisir comme ça l'univers conceptuel, et surtout l'architectonique, la construction leibnizienne. Il y a un autre livre comme ça qui a été déterminant pour comprendre Leibniz, c'est Le pli de Deleuze, qui est un livre fantastique aussi, et qui pourrait très très bien marcher, en fait, avec aussi cette idée de la fugue.
Mais en écoutant Bach, ça fait chemin.
Ah, ça a fait chemin, c'est merveilleux d'ailleurs, quand on, parce que parfois le texte de Leibniz, le chemin peut être embroussaillé. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire quand un art comme ça vient à la rescousse d'un autre. Et puis c'est vrai qu'en philosophie, il y a aussi des grands auteurs, hein, qui ont parlé sur la musique. Je pense à un de mes auteurs préférés, Jean Kelevitch, qui a fait des livres merveilleux sur la musique, l'ineffable, voilà, et qui a considéré que d'une certaine manière, la musique disait mieux ce qu'est la pensée que le discours.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
On a évoqué tout à l'heure, Cynthia Fleury, avec vous, le fait que vous ayez réussi à concilier, à allier, on parlait des alliances tout à l'heure, la psychanalyse avec la philosophie, ce qui n'est pas une mince affaire, souvent on les sépare. Comment vous avez réussi à faire le lien ?
J'ai fait le lien tardivement, alors de façon très jeune, parce que j'avais commencé une analyse assez jeune, et puis interrompue, puis continue, etc. Mais à un moment donné dans mon travail, dans le centre de recherche auquel j'étais rattachée, il y avait un grand programme européen qui se lançait sur les pathologies du politique. Et à ce moment-là, moi, j'ai dit à mon directeur de recherche du moment, je lui ai dit non, moi, je veux travailler sur ce grand programme, mais pas le politique, c'est trop vaste, la démocratie, les pathologies de la démocratie. Donc j'ai commencé déjà à orienter, d'une certaine manière, avec toute cette métaphore de la santé, mon travail en philosophie politique et morale. Et alors, à ce moment-là, mes interlocuteurs ont changé. Parce que mes interlocuteurs sont devenus des médecins du travail, par exemple. Mmh. Ou alors des psychiatres, ou de la psychodynamique, etc. C'est-à-dire tous ceux qui étaient au front de ces dysfonctionnements de la démocratie, pas simplement institutionnels, mais aussi dans la vie, les corps, etc. Et donc, voilà, j'ai refait lien avec ce parcours qui était le mien plus personnel, à savoir l'analyse. Et à ce moment-là, voilà, la boucle s'est un petit peu bouclée.
Et c'est ainsi que la problématique du courage a émergé dans la question politique et sociale, j'imagine.
Alors, la problématique du courage, elle a émergé par deux endroits. Un territoire théorique, qui était que je m'étais toujours interrogée sur la régulation démocratique. Et en gros, cette régulation, pour aller vite, était passé par des grands moments qui s'appellent la régulation par la vertu ou la régulation par l'intérêt. Et donc moi, je posais une hypothèse qui était de dire, tiens, est-ce que on peut avoir l'efficace de la vertu et l'efficace de l'intérêt sans en avoir les dérives, et cette chose s'appellerait la régulation par le courage. Donc j'avais quelque chose de très principiel côté philosophie politique, pardon. Et puis de l'autre côté, psychanalyse, le découragement des patients sur le divan, quoi. C'est-à-dire que, en gros, je voyais que le mal pas du siècle, parce qu'il y a le mal du dos, mais en l'occurrence il y avait autre chose qui était le dos mental et qui s'appelait le courage, et les gens arrivaient totalement dépossédés par ce courage.
Voilà un compositeur qui a eu besoin de beaucoup de courage. Il s'agit de Beethoven.
Thank you. Thank you.
L'Allegro molto de la deuxième symphonie en ré majeur opus 36 de Ludwig van Beethoven, interprété par l'Orchestre symphonique de Vienne et à la baguette Philippe Jordan. C'est une symphonie qui a été composée en 1802 au cours d'une année qui a été difficile pour Beethoven. Il a même songé au suicide et il semblerait que l'écriture de cette symphonie l'ait aidé à surmonter ses difficultés. Cynthia Fleury, est-ce que j'ai envie de vous demander si vous l'entendez?
Ah si, on l'entend quand même. On entend la lutte comme s'il s'agissait de s'arracher soi-même au silence de chaque note, la démultiplication des notes, le souffle. Non, c'est un cri de lutte absolue pour dire non seulement je fais de la musique, mais en plus peut-être je serai l'un des plus grands compositeurs de ce monde. Alors le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'être sourd pour être le plus grand, comme il ne suffit pas d'être asthmatique pour être le meilleur écrivain. Je pense à Proust. Mais il est clair que, et c'est ça, les artistes sont merveilleux pour ça, c'est qu'ils montrent à quel point la vulnérabilité est source de sublimation. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on est tous vulnérables. Donc, on ne trouve pas toujours nécessairement le chemin, mais de savoir qu'eux le trouvent, je trouve que ça fait faire des sauts véritablement civilisationnel.
Et pour faire un écho à la notion de courage, il faut un peu de courage, j'imagine, Cynthia Fleury, pour être capable de passer justement les affres de la dépression et donc de la non-action vers l'action.
Oui, et on l'entend hein, dans cette vélocité. Le courage ne se dit pas nécessairement toujours comme ça. Hein. Il peut être beaucoup plus silencieux, beaucoup moins d'une certaine manière, dans la force,
oui,
dans le fait
dans
de forcer,
volonté,
hein, dans la volonté. Il peut être aussi dans l'accueil. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Ça raconte ça, Beethoven.
Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, est l'invitée de Musique et moi ce matin jusqu'à 12h30 sur France Musique.
All things must come to an end. But when it comes down to music, there's no end. It keeps going and going and going. We all have a destiny, and we all look for a way to go. My brother, hold my hand. Bring it on back. Bring back the music. I want to hear it loud and clear, like a heart beating, like water flowing. Bring back the music. Bring it back. I want to know, can you tell me please? Bring it back. Bring it back.
Cobham, le chef de file du jazz rock et de la fusion, qui a fait partie du Mahavishnu Orchestra, collaborateur de George Benson et de Quincy Jones. Bref, un personnage, un batteur hors pair en plus, hein, Cynthia Fleury. Et c'est votre proposition, parce que ça fait vraiment partie de votre vie, le jazz.
Oui, alors ça fait vraiment partie de ma vie. J'ai dit tout à l'heure la trompette, mon deuxième instrument préféré c'est la batterie. Donc ceci explique cela. Et puis c'est vrai que, alors là pour le coup, Red Baron, Stratus, etc., c'est vraiment des morceaux que je connais par cœur parce que je les partage avec mon fils qui adore Red Baron.
Qui est plus petit, hein?
Oui, il a 9 ans en l'occurrence, mais enfin il a toujours aimé Cobham et enfin en tout cas depuis maintenant pas mal de temps. Et puis aussi avec le gaillard qui s'appelle son père, donc et qui aussi est un, alors lui pour le coup, un très 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 grand amoureux de la musique et notamment du jazz.
Le bien que ça nous fait, Cynthia Fleury, d'écouter ces musiques, notamment ce titre, Red Baron, me fait forcément aller vers ce qui constitue le centre de votre activité actuellement, c'est la notion du soin. Pourquoi voulez-vous remettre le soin au centre du débat démocratique, Cynthia Fleury?
Tout simplement parce que le soin est matriciel, si vous voulez. Le soin, c'est rendre capacitaire autrui. Et en fait, c'est le premier geste politique. Et souvent, on en fait quelque chose de superfétatoire, de sentimental. C'est pas du tout sentimental, le soin. C'est quelque chose qui est terriblement efficace et qui construit l'autonomie de la personne.
Pourquoi? Parce que ça constitue le rapport à l'autre?
Ça constitue le rapport à l'autre, mais pas seulement. Très souvent, ce qui vient constituer le rapport à l'autre nous permet aussi de constituer le rapport aux idées, à l'envie de la connaissance, à ce qu'on appelle en psychanalyse l'investissement libidinal. C'est-à-dire le fait de mettre à un moment donné son être dans quelque chose, son désir dans quelque chose, de croire en quelque chose, etc. Et ça part très souvent du soin. Ça veut pas dire que ceux qui n'ont pas reçu ce soin ne pourront pas faire ça. Mais oui, ce sera plus difficile. Oui, ce sera plus compliqué. Et donc, oui, nous avons, nous, les êtres humains, dans notre individualité, le devoir, d'une certaine manière, de porter ce soin à autrui. Et nous avons, nous, les institutions, la nécessité de le penser aussi collectivement.
Donc, ça veut dire aussi que c'est repenser l'environnement, c'est repenser ce qui fait notre monde, Cynthia Fleury.
Exactement. Et d'ailleurs, tous les penseurs du soin sont des penseurs qui considèrent aujourd'hui que, en fait, le soin nous permet d'habiter le monde. Donc, c'est pas simplement le soin, et ça nous renvoie à la question sanitaire, de santé, qui est très, très, très importante, mais c'est, en fait, notre lien au monde, le monde humain, mais aussi le monde non humain, le monde vivant. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir ces quantités de jeunes gens qui descendent dans les rues aujourd'hui pour dire, écoutez, nous avons envie d'une chose qui nous paraît essentielle, c'est de préserver notre lien au monde vivant.
le nocturne numéro 3 en si majeur, opus 9 de Frédéric Chopin, interprété par Nikita Magaloff. Chopin, je crois, Cynthia Fleury, est votre compositeur de chevet, si on peut dire les choses comme ça.
Oui, en tout cas, c'est un de mes compositeurs préférés. J'aime beaucoup aussi Schubert. Mais c'est vrai que Chopin, c'est peut-être un des compositeurs les plus littéraires. Enfin, moi, je le ressens comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a une telle écriture stylistique. C'est à la fois d'une sensibilité extrême, mais ça a quelque chose de Mallarmé. En tout cas, moi, ça m'évoque ça. Donc, c'est vrai que je suis assez sensible à Chopin. Oui.
Vous qui avez du mal à écouter de la musique, disons, à des moments choisis, parce que vous le disiez tout à l'heure, votre sensibilité, ça peut vous heurter. Chopin, ça arrive à faire ce tampon là, entre le jazz et le reste?
Oui, Chopin, ça se faufile. Et puis, encore une fois, c'est tellement lui face au monde. Donc, il y a quand même la possibilité, encore une fois, dans sa musique, de coexister. Alors, c'est pas forcément très clair ce que je dis. C'est des questions de ressenti. Mais c'est vrai que Chopin, c'est peut-être le musicien avec lequel j'ai le moins de soucis.
Vous avez pratiqué le piano pendant 11 ans. Vous avez dû avoir un niveau assez correct. Ça ne vous a jamais manqué de cesser de jouer?
Si, ça me manque. Bien sûr que ça me manque. Ça me manque parce que ce qu'on a réussi à faire et ne plus pouvoir le faire, c'est quand même une détestation assez forte de soi par rapport à ça. Donc oui, ça me manque. Alors j'ai toujours un piano chez moi, mais c'est vrai que c'est terrible, quoi. C'est terrible la perte. Aujourd'hui, ma relation avec le piano est essentiellement une relation de la perte et c'est dur.
On va se quitter avec un grand dépressif, Cynthia Fleury, Rachmaninoff, pour terminer cette émission avec le prélude en ut dièse mineur opus 3 numéro 2, donc de Rachmaninoff, interprété par Boris Berezovsky. Je rappelle que vous avez écrit « Le soin est un humanisme » chez Gallimard dans la collection Tract. C'est absolument passionnant, ça se lit facilement et rapidement. Merci beaucoup Cynthia Fleury d'être venue passer cette heure et demie en notre compagnie.
Merci.
Et puis à très bientôt et prenez soin de vous, si j'ose dire.
Thank you.
Le prélude en ut dièse mineur opus 3 numéro 2 de Rachmaninov, interprété par Boris Berezovsky, pour terminer cette émission en compagnie de la psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury, qui était l'invitée de Musique et Moi ce matin. Merci à Valérie Lavalard qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, Marie Ferdinand attachée de production. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et Moi. N'hésitez pas à nous laisser des messages. On se retrouve la semaine prochaine à 11h. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. À dimanche. France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.